Bienvenue à tous dans le Mac de l'été.
Allez-y. Nous jouions encore par terre, ma sœur et moi. Ça devait donc être en 1932 ou en 1933 que nous avons entendu dire qu'elle arrivait. Millicente McTeer, notre arrière-grand-mère. Légende souvent citée, elle était censée se rendre chez tous ses proches parents qui habitaient dans le quartier. Elle vivait le Michigan. C'était une sage-femme très recherchée. Sa visite dans l'Ohio était fort attendue depuis longtemps parce qu'elle était considérée comme le chef sage, incontestable et majestueux de la famille. Cette majesté était évidente lorsque, dès qu'elle entrait dans une pièce, se produisait quelque chose dont je n'avais été témoin auparavant. Sans qu'on leur demande, tous les hommes se levaient. Finalement, après une tournée de visite chez d'autres parents, elle est rentrée dans notre salle à manger, grande, le dos droit, s'appuyant sur une canne dont elle n'avait manifestement pas besoin. Elle a salué ma mère. Puis, en nous regardant, ma sœur et moi, qui jouions, restant simplement assises par terre, elle a froncé les sourcils, pointé sa canne vers nous en disant « Ces petites ont été trafiquées ». Ma mère a protesté vigoureusement, mais le mal était fait. Mon arrière-grand-mère étant noire comme du goudron, ma mère savait précisément ce qu'elle voulait nous dire. Nous, ses enfants, et par conséquent notre famille immédiate, nous étions souillés, non purs.
Bonjour Dominique Bourgois.
Bonsoir.
Quel est le texte que vous venez de nous lire ?
Je viens de lire une des conférences que Toni Morrison a données à Princeton en 2016 et qui ont été regroupées sous le titre de « L'origine des autres ».
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Mac de l'été, le magazine culturel de vos débuts de soirée sur France Inter. Nous bousculons nos programmes aujourd'hui suite à la disparition de l'immense écrivaine Toni Morrison qui s'est éteinte dans la nuit de lundi à mardi à 88 ans. Figure majeure de la littérature du XXe siècle, tant pour la puissance de sa langue que pour la richesse de ses récits, Toni Morrison a construit depuis son premier roman, L'œil le plus bleu, jusqu'au dernier, Délivrance, une œuvre radieuse, pleine d'amour et de révolte. Prix Pulitzer en 1988 pour Beloved, elle est ensuite la première et la seule femme afro-américaine à obtenir le prix Nobel de littérature en 1993. Pour lui rendre hommage, son éditrice et amie Dominique Bourgois a pris la route pour nous rejoindre. Nous lui en sommes très reconnaissants.
France Inter. Duh. Le Mac de l'été. Anna Sigalevitch.
Dominique Bourgois, merci infiniment de vous être déplacé pour être en direct avec nous sur France Inter. Merci beaucoup.
J'aurais pris toutes les routes. Vous savez, cet hiver, elle m'a téléphoné un soir, elle m'a dit « I want to see you ». Et je suis allée à New York la voir.
Ah oui ? Vous avez pris un avion ?
Oui, tout de suite.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi, Dominique Bourgois, ce texte, un extrait de cette conférence, de ces 6 conférences qu'elle a données à Harvard en 2016, regroupées sous le titre « L'origine des autres ».
Parce que comme elle le dit, immédiatement, elle s'est sentie autre. Et c'était aussi le thème de quand elle avait été invitée le grand invité du Louvre, excusez-moi.
Je vous en prie.
Et qu'elle s'est toujours battue contre cette notion d'autre. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Qu'est-ce que ça voulait dire d'être autre dans sa famille, autre dans son pays, autre dans la littérature ?
Parce que c'est un récit donc qui regroupe plusieurs histoires. Il y a à la fois des histoires d'esclavage et puis ça va jusqu'aux violences policières récentes.
Madame Morrison, oui, vous voulez dire son travail ?
Oui, absolument.
Oui, bien sûr. Non, je pensais que vous parliez d'elle. Oui, bien sûr. Elle était un témoin et ça a été surtout quelqu'un qui racontait des histoires. Donc, qu'est-ce qu'elle a construit en racontant toutes ces histoires quand on va les regrouper et quand on va regarder son œuvre ? L'origine des autres. Le fait d'être noire, elle disait elle-même « Je suis née à Lorain, Ohio ». Et elle ne l'a jamais oublié. Bon. Et sa grande force, elle l'essayait dans plusieurs livres, c'était de ne pas vous signifier dès le départ si le narrateur était noir ou blanc. Bon. Et c'était son exercice préféré, je veux dire. Et son exigence, et c'est comme ça qu'elle pouvait impliquer le lecteur, qui est le but de tout écrivain.
On va écouter un morceau que vous avez choisi, Dominique Bourgois, le gospel « Amazing Grace » par Mahalia Jackson.
Oh, grace, how sweet the sound that saved your wrath like me.
C'était Amazing Grace par Mahalia Jackson. C'est vous, Dominique Bourgois, qui nous avez demandé d'entendre cette chanson.
Parce que Madame Morrison, elle était croyante, religieuse. Elle aimait les gospels. Et là, cette voix est presque aussi belle que celle de Madame Morrison. Enfin, elle fait partie des grandes voix qu'on aimerait écouter. Et puis aussi, à cause de l'anecdote que vous connaissez du président Obama qui a chanté Amazing Grace.
Oui.
Alors qu'il rendait hommage après une tuerie dans une église et qu'il a surpris tout le monde. Et que cette vidéo du président Obama chantant Amazing Grace reste pour moi un moment rare d'un président qui exprime de l'empathie et de la proximité avec un peuple. Et là, quand j'en avais parlé à Madame Morrison, elle m'avait répondu, parce qu'elle avait toujours cette distance de faire qu'elle ne voulait jamais magnifier les moments importants, jamais. Et elle m'a dit, oui d'accord, mais il chante faux.
La pudeur de toujours aussi. Dominique Bourgois, vous êtes son éditrice, vous étiez son amie. Quand on s'est parlé hier au téléphone, vous m'avez dit oui, bien sûr, je viens. Je lui dois. Qu'est-ce que vous devez à Toni Morrison, Dominique Bourgois?
Ben, je lui dois d'avoir eu la confiance qu'elle a eue de nous confier ses textes, parce que je pense qu'elle a embelli mon métier d'éditeur, c'est-à-dire qu'elle avait été éditrice elle-même, donc Elle savait. Elle savait la difficulté, elle savait les exigences. Et quand la prose, le vocabulaire, la syntaxe de Madame Morrison sont exceptionnelles. Elles ont été commentées des dizaines et des dizaines de fois. Mais je lui dois ça, je lui dois ces années de confiance avec les traducteurs, avec les gens, avec mes équipes. Et ce qui me bouleverse depuis hier, c'est de voir qu'on a créé une communauté autour d'elle, de lecteurs, de libraires, de journalistes, voilà ce que je dois. Et ensuite, de manière tout à fait, un peu simple.
Personnelle, oui.
Très personnelle, je lui dois de m'avoir aimée, je crois. Puisqu'elle me l'a dit. Je lui dois cette relation exceptionnelle. Et je lui dois surtout, et ça, il faut le dire, je veux dire, dans 30 ans d'amitié, j'ai jamais été blanche, elle a jamais été noire. Ça n'a jamais été une question, ça n'a jamais été un soupçon, ça n'a jamais été un moment. Voilà. Et je lui dois des moments de vie merveilleux que je pouvais vous raconter, de nombreux films qu'on est allé voir au cinéma, d'aller acheter des chaussures, de lire des textes.
Oui, d'être dans la vie. Alors, lire les textes, c'est une chose qui est importante, en effet, parce que avant d'être écrivain elle-même, elle était une grande lectrice depuis l'enfance. Elle était née dans une famille très, très populaire, très simple, dans l'Ohio, de fait, dans un ghetto, s'est retrouvée dans un ghetto noir en 1931, elle était née d'ailleurs Chloé Wofford, et puis très tôt, donc dans sa famille quand même, la lecture était présente.
La lecture et la Bible, et les prières, je veux dire, donc elle a toujours lu et c'était toujours extrêmement important, et c'est aussi, je pense que c'est du fait qu'elle ait lu, de cette construction d'avoir été éditeur, qu'elle a été un formidable, exceptionnel professeur. Pourquoi est-ce qu'elle a continué d'enseigner jusqu'à un âge très avancé? On aurait pu se dire que
qu'elle n'avait pas besoin de cette
contrainte. C'était extrêmement important, la transmission à travers la lecture. Elle insistait beaucoup du fait qu'il fallait enseigner.
Enseigner et transmettre des auteurs aussi. Là, la question de l'édition, de l'éditrice entre en compte, parce que c'est pour faire aussi découvrir et entendre des voix qui ne se faisaient pas entendre qu'elle est devenue éditrice en 1964. D'ailleurs, elle faisait une analogie à la musique jazz, qui était conçue pour un public noir exigeant au départ et qui a dépassé le cadre. Donc elle voulait créer ça aussi avec la littérature noire américaine. Donc en publiant des biographies de personnes comme Angela Davis, de Mohamed Ali, une anthologie d'écrivains noirs aussi, un black book.
Mais elle a surtout publié une femme magnifique, Toniquette Bambara. Oui. Ce livre qui s'appelle « Those bones are not my child »,« Ces os ne sont pas mon enfant », c'est un livre magnifique, c'est un témoignage magnifique. Et c'est très important parce que c'est la première fois qu'on raconte que vraiment des enfants noirs sont assassinés et qu'il y a une miscarriage of justice. Il y a eu un film là-dessus, un documentaire très sérieux, et le livre de Toniquette. Et Toniquette était un auteur exceptionnel, malheureusement mort trop jeune. Mais c'était un auteur magnifique.
Et vous échangiez beaucoup sur la littérature, elle découvrait des auteurs, elle avait une curiosité.
Oui, mais elle aimait aussi les policiers. Moi, je suis souvent allée acheter des romans policiers avec elle pour qu'elle lise le soir dans la chambre d'hôtel. Elle adorait James Ellroy.
Il y a du suspense en même temps dans ses livres.
Oui, mais c'est ça une vraie lectrice. C'est que même si tu lis James Ellroy, c'est bien. Mais elle était très attentive aux jeunes. Je veux dire, Jasmine Ward, elle lui doit beaucoup. Zadie Smith, elle le dit. Chimène Oshige, elle le dit. Je veux dire, elle a formé tous ces gens-là parce qu'elle leur a appris à lire et à être l'exigence des mots, quand même. On parle toujours de Faulkner.
Bon, qui a été quand même important dans sa vie.
Elle
a
fait sa thèse.
Voilà,
c'est sa thèse. C'est sa thèse. Et là, y a, si je peux vous lire une phrase
belle,
puisqu'elle dit « Les différentes façons dont la littérature utilise la couleur de peau pour révéler un personnage ou faire progresser le récit sont pour moi l'objet d'une fascination constante. » Que ce soit l'horreur d'une unique goutte de sang mystique, du mystique sang noir, les indices d'une supériorité blanche innée ou d'une puissance sexuelle déréglée et excessive. Pour ce qui est de l'horreur suscitée par la règle unique de la goutte de sang, il n'est meilleur de guide que Faulkner. Par quoi d'autres sont hantés de brouiller la fureur, Absalom, Absalom. Et c'est vrai que c'était sa référence.
C'était sa référence, et puis elle disait d'ailleurs que Faulkner avait une conception de l'écriture raciale qui était passionnante.
Oui, et nouvelle.
Et nouvelle.
Et surtout nouvelle. Et c'est un écrivain du Sud. Donc il avait... faut pas oublier de dire que jusqu'en 93, il y a des livres de Toni Morrison qui ont été interdits. Interdits dans les universités.
On va y venir, dans les bibliothèques.
Dans les bibliothèques. Et chez elle, à la maison, dans un cabinet de toilette, elle avait encadré son prix Nobel et la note disant que ce livre était interdit.
C'est drôle.
Oui. C'est le même niveau.
Et est-ce qu'elle avait, en tant que lectrice, justement, un peu un œil d'éditrice?
Je pense.
Oui.
Peut-être pas tout le temps, mais je pense qu'elle elle l'a eu pendant très très longtemps. Vous voulez dire qui pouvait corriger ou qui aurait pu changer le texte ou que elle a donné un très bel interview à la Paris Review sur le rôle de son éditeur au sens anglais du terme.
Oui.
Qui est Bob Gottlieb,
oui.
Monsieur avec qui.
Mais non, mais je veux dire le sens anglais du terme. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire c'est la personne qui travaille sur les textes.
Voilà.
Alors que nous éditeurs c'est tout le reste. Il y a publisher en anglais qui et éditeur et c'est vrai que moi, elle m'a souvent donné ses manuscrits à lire, non pas que je sois éditeur, mais parce qu'on en parlait. Mmh. Et quand elle m'a envoyé, je m'en souviens très très près, le manuscrit de Paradise, qui est un livre tellement violent et tellement... Et je l'ai appelé et je lui ai dit...
Qui est le troisième volet de sa trilogie.
Et je lui ai dit, mais Tony, vous allez vous faire massacrer avec ce livre. Et ça l'a beaucoup fait rire. Et c'est vrai ce qui est arrivé, ça s'est pas bien passé. Mmh. Moi. Mais oui, elle avait ce regard d'éditeur avec ses traducteurs. Si vous voulez, les traducteurs pouvaient toujours tout lui demander. Un mot, une syntaxe, une phrase. Et elle était tout à fait disponible pour ça.
Mais ça, on a entendu un petit peu sur différentes chaînes des traducteurs ce matin.
Oui.
Et en effet, on sent qu'ils sont profondément touchés par sa disparition et qu'il y a un lien qui est très particulier qui a été créé avec son œuvre.
Parce qu'elle avait cette disponibilité et surtout, elle avait cette discipline. Et elle le raconte dans la Paris Review. Elle pouvait travailler avec Gottlieb qui ne cédait sur rien, et elle non plus, mais à la fin, elle cédait quand même.
On va l'écouter, Toni Morrison, en 2016. C'était au micro d'Augustin Trapenard dans Boomerang.
J'ai toujours lu, dès l'âge de 3 ans, on ne faisait que ça. Toute la famille s'intéressait à nos lectures. Ma mère était membre de plusieurs clubs du livre. Mais il faut bien comprendre quelle en était la raison. Ce n'était pas seulement le plaisir de la lecture. Mon grand-père, vous savez, se vantait d'avoir lu la Bible 5 fois intégralement. Et tout le monde disait, oh, c'est formidable. Et moi, je me demandais, mais et alors ? Et puis j'ai réfléchi. Il n'avait aucun livre dans la maison, sans doute que la Bible. C'était la seule lecture qui lui était accessible. Et on l'empêchait d'aller à l'école. On l'empêchait de s'instruire. À l'époque, en Alabama, la ségrégation. Donc la lecture, eh bien, c'était un acte politique dans ma famille. Ce n'était pas juste pour passer le temps. C'était un acte agressif, anti-blanc, parce que les Blancs nous interdisaient d'aller à l'école. C'est la génération de ceux qui s'instruisaient dans les champs. Et si un Blanc était surpris en train d'apprendre à lire ou à écrire à un Noir, eh bien, il était passible d'une amende ou pouvait être mis en prison.
C'est vrai que toute votre œuvre, Toni Morrison, depuis L'œil le plus bleu, votre premier roman, jusqu'à Délivrance, en passant par Beloved ou Home, témoigne de cette difficulté de se sentir américain dans une culture qui reste dominée par le regard de l'homme blanc. Est-ce que vous n'auriez pas écrit que là-dessus, en fait ?
Oui,
c'était le thème de mon premier roman, L'œil le plus bleu.
Si vous pensez vraiment que vous auriez une vie meilleure, que vous seriez plus heureux si vous aviez des yeux bleus, donc une peau blanche, et que ça n'arrive pas, ça peut vous détruire, ça vous rend fou. C'est beaucoup plus que douloureux ou décevant, c'est ravageur.
Alors, ce que j'ai voulu faire, je crois avoir réussi, c'est essayer d'extraire le poison de cette idée vénéneuse que certains Noirs se sont imposés. Mais vous savez, j'ai lu que se blanchir la peau en Afrique ou ailleurs, c'est très tendance de nos jours.
Please, don't do that.
Je vous en prie, ne faites pas ça.
Toni Morrison, donc au micro d'Augustin Trapenard, dans Boomerang, c'était en 2016. Alors, L'œil le plus bleu, c'est l'entrée en littérature de Toni Morrison, son premier roman paru en 1970, qui raconte l'histoire d'une petite fille, Pecola, qui rêvait d'avoir les yeux bleus, comme son idole blanche Shirley Temple. Puis ça va mal finir. Hein. C'est un roman, Dominique Bourgois, qu'elle a mis 5 ans à écrire, Toni Morrison, dans lequel elle s'inspire d'une histoire, de son histoire un peu à elle, qu'elle a connue en fait avec, avec une amie quand elle était enfant, quand elle avait 8 ans, qui rêvait de devenir blanche.
Mais elle a mis 5 ans pour l'écrire parce qu'elle était occupée. Elle avait un métier.
Elle avait des enfants.
Elle était mère célibataire. Elle s'occupait de ses deux fils. Et elle raconte quelque part que jamais elle aurait osé dire à sa maison d'édition qu'elle écrivait un roman parce qu'il pense qu'elle dit...
Oui, pareil qu'ils l'ont découvert dans, oui. En envoyant un article.
Elle dit, ouais. They would have fired me. Ils m'auraient viré. Ouais. Bon. Comme Doctorow, qui était éditeur, quand ils ont compris qu'il était écrivain, ils lui ont demandé de partir. Donc, les 5 ans, c'est aussi avec le fait que c'était difficile d'être une vie de femme toute seule avec, bon. Et que sans doute, c'était difficile d'écrire un premier roman.
Un premier roman aussi.
Un premier roman sur ce thème-là.
Voilà.
Voilà. Qui est directement lié à son expérience. Ce qu'elle va traiter quand même toute sa vie, hein, toute sa vie professionnelle, enfin, dans tous ses romans.
Il y a les thèmes de toute son œuvre, hein, déjà dans ce premier roman, l'identité noire, bien sûr, mais une forme de racisme aussi intériorisé, l'enfance, la transmission, la soumission des femmes. Enfin, il y a tout ça déjà dans L'œil le plus bleu.
Parce que je pense que dès le départ, elle savait vraiment ce qu'elle voulait faire. Ouais. Elle savait très bien, pas tous les livres qu'elle avait écrits, mais sans doute. Là où elle voulait aller.
Et par exemple, le sillon qu'elle allait creuser.
Absolument. Et ce qu'il faut que vous sachiez, parce que je crois que c'est important de le dire, parce que vous disiez son métier d'éditeur, tout ce qu'elle dit, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un lieu, il n'y a pas un moment, il n'y a pas une histoire qui n'a pas été vérifiée.
Elle appréhendait vraiment comme une archéologue, un peu comme
tout,
une chercheuse.
Tout. Elle a toujours
mené l'enquête.
Voilà. Et il y a un livre qui est beaucoup plus tardif, mais je pense qu'on peut le raconter, qui est Home, l'histoire de ce soldat qui revient de la guerre de Corée. Et qui retraverse tous les États-Unis. Et c'est elle, la première, qui m'avait parlé du Green Book, qui était le sujet de ce film qui a eu un Oscar.
Oui, qui est sorti. Bon. Ouais, ouais.
Et j'avais dit, mais qu'est-ce que c'est? Et elle m'avait expliqué, c'était un guide qui permettait aux Nord-Américains de dormir, d'aller à la messe, de se faire soigner. Ça veut dire que chaque moment dans tous ces romans, ont été vérifiés. Et ça, c'est son travail d'éditeur et son travail d'écrivain. Donc ça prend 5 ans d'écrire un livre.
Ça prend 5 ans et qu'on sent aussi dans la précision et dans il y a quelque chose de déjà très très aigu en fait dans la précision.
Oui, sur l'époque, tout est juste. Et c'est pour ça que c'est très important quand vous demandez non pas à des élèves traducteurs. Moi, je leur ai souvent demandé quand vous traduisez Toni Morrison, regardez quelle année c'est et qu'est-ce qu'il y avait à ce moment-là et qu'est-ce qui se passait. Si vous nourrissez pas de tout ça, vous faites une traduction sans...
Qui est
sans,
à côté. Hein.
Totalement.
Est-ce que vous avez découvert Toni Morrison avec ce premier roman?
Oui.
Oui, donc oui. Ok. Et qu'est-ce que ça a provoqué en vous? Qu'est-ce que vous avez découvert? Quel auteur vous avez
découvert? C'était lié avec elle. Hein. Mmh. De toute façon, c'est une rencontre, c'est une émotion. Ouais. On n'avait jamais lu ça. Voilà. Moi, je ne connaissais pas très très bien la littérature nord-américaine, parce qu'on ne la lisait pas. J'avais rencontré James Baldwin, donc c'était différent, qui est d'ailleurs une relation de famille avec Toni Morrison. Hein. Bon. Mais sa manière d'elle, et cette voix, et surtout ces mots, c'est une émotion. Et c'est un choc qui fait que les lecteurs ont continué à la suivre, parce qu'ils ont été happés, puis après, dans tous les autres romans, ça a continué. Le charme a...
Le charme a opéré tout de suite, ouais.
Ou au contraire,
le rejet.
Il y a
parce que c'est quand même une écriture qui est touffue, qui n'est pas évidente. Enfin, faut avoir envie aussi. Voilà, c'est l'ordre de l'effort. Ouais.
C'est un effort, mais c'est un effort très subtil. Parce que c'est un effort qui est gratifiant pour le lecteur. Et je pense que toute l'émotion qu'on voit depuis hier, cette reconnaissance et cette gratitude, elle vient aussi de cet effort. Bien sûr.
Alors, la reconnaissance et la gratitude, elle l'a obtenue vraiment de façon très importante en 1988, en obtenant le prix Pulitzer pour Beloved, qui est paru en 1887. On écoute Toni Morrison au micro cette fois de Laure Adler dans Hors Champ en 2012.
The idea for writing about that subject,
ce sujet, cette idée,
which is the determination
qui porte sur la détermination de cette esclave, cette femme, d'avoir le contrôle sur ses enfants, était un acte révolutionnaire. Parce que vous savez, l'enfant ne lui appartenait pas. En même temps du processus d'écriture sur Beloved, il y avait le mouvement féministe qui naissait, qui également défendait la position selon laquelle la véritable liberté, c'était de ne pas avoir d'enfant, de pouvoir avorter légalement. et donc de pouvoir avoir une contraception décidée. C'était vraiment un extrême, mais il y avait l'autre extrême qui était l'expérience de cette femme noire qui pensait qu'avoir un enfant était son droit et qu'elle pouvait le réclamer. Vous savez, ces voix ont été interdites, ces voix ont été silencieuse. Et toutes ces histoires étaient présentes dans la culture, dans la musique et dans ces histoires qui se transmettaient. Le problème était de trouver une articulation et de les transformer en une œuvre narrative. Parce que, vous savez, généralement, toutes ces histoires étaient présentes dans la musique. Il n'y avait aucun texte écrit qui les reprenait.
Oui, donc vous avez fait un texte écrit à partir de partitions musicales. Mais en même temps, Toni Morrison, tous les livres de vous sont musicaux. Est-ce que vous acceptez ce terme de partition pour qualifier votre œuvre ?
Je suis tout à fait d'accord. Ils ont un son tout à fait particulier pour moi. Le rythme, les pauses, les silences, tous ces éléments sont d'une certaine façon naturels pour moi. Vous savez, j'utilise un anglais parlé. Un anglais qui est presque proche du dialecte, de l'argot. Mais ce n'est pas quelque chose de réfléchi, oui, d'écrire de cette façon.
Alors Toni Morrison parle de partition pour qualifier son œuvre. Enfin, c'est Laura Adler qui lui pose la question. Elle dit oui, en effet, c'est une partition. Elle parle de l'importance du rythme. Elle dit même qu'elle imagine sa langue comme un sermon, hein, comme celle d'un prêcheur. Hein, c'est voilà la rythmicité de la langue de Toni Morrison est absolument capitale.
C'est pour ça que c'est elle qui enregistrait tous ces livres audio aux États-Unis de, oui, Toni Morrison sont lus par Toni Morrison. Et quand tu lui as proposé de lire Home et Délivrance, elle a choisi, on lui a présenté Anna Mouglalis. Elles se sont extrêmement bien entendues toutes les deux parce qu'elles fumaient des cigarettes. Elles avaient une belle voix.
Une bonne voix grave et rauque.
Oui. Et une voix sensuelle. Ouais, ouais. Une voix très sensuelle. Et Anna a très très bien lu, Anna Mouglalis a très bien lu le texte. Et elles ont immédiatement été sur la même, elles entendaient les mêmes sons, alors que c'était un texte en français et l'autre un texte en anglais, je veux dire.
Donc c'est une langue en effet qui est très particulière, une langue qui est à la fois ardente, qui est précise, qui est poétique, où il y a de multiples voix aussi. Dominique Bourgois, je vous propose qu'on écoute l'écrivaine Natasha Apana, grande lectrice de Toni Morrison, qui a été profondément marquée par son style.
Elle est une styliste de la langue. Elle dit des choses, des vérités cachées. Elle est aussi, je crois, elle a cette capacité à non pas écrire sur la mémoire, mais à se remémorer la mémoire dans un contexte littéraire, dans un contexte narratif, qui est pour moi absolument époustouflant. Et dans chacun de ses livres, elle a plus qu'une maîtrise de la langue anglaise, qui est quand même une langue qui a été imposée aux esclaves. Et de cette langue qui est imposée, elle en fait un festin. Elle en fait quelque chose de tellement complexe, tellement riche. Il faut peut-être une seconde s'arrêter sur comment elle utilise les voix dans ses romans. Elle utilise donc la polyphonie, elle utilise la prosopopée, qui est cette technique de faire parler les morts. Elle a comme ça presque des couches et des couches de techniques littéraires, d'émotions littéraires. Voilà, c'est pour ça que je pense qu'il faut la lire, la relire, la re-relire pour supporter, soutenir, apprécier l'énorme complexité de ce qu'elle a été, de ce qu'elle a écrit.
Les techniques littéraires de Toni Morrison, nous dit l'écrivain Natasha Apana. Dominique Bourgois, vous partagez ce sentiment de complexité, de densité immense de cette écriture? Oui, j'imagine que oui, mais en quoi? Je dirais plutôt que...
Oui, en même temps, je pense pas que dans son activité d'écrivain, elle pensait qu'elle était en train de mettre en place quelque chose de très complexe. Je pense que elle n'avait pas le but de ça. Je pense que c'était comme un artisan. Elle créait, elle a créé, elle avait un vocabulaire, elle avait une syntaxe. et elle a donné tout ça. Mais c'était pas, je pense pas que c'était ça a jamais été un truc. Ça n'a jamais été une posture.
Non, non, mais c'était son esprit qui était construit voilà. comme ça, qui était complexe.
Et ses références. Et ça venait oui. beaucoup de ses références.
Faulkner, c'est quand même une écriture très complexe. Il faut.
Enfin, bien sûr, voilà. bien sûr. Mais je pense que, voilà, en même temps, il ne faut pas oublier que Toni Morrison, elle aimait raconter des histoires. C'est très important parce que ce n'était pas juste pour prendre une attitude.
Oui, pour la virtuosité. Politique,
la virtuosité. Non, elle a beaucoup aimé raconter des histoires. Et le dernier livre que nous avons traduit par Délivrance, alors qu'en anglais c'est God Save the Child, elle m'avait raconté qu'elle était fascinée, elle trouvait Lady Gaga une personne formidable.
Bon, et que oui, Bob Wilson aussi l'adore. Oui, elle génère des choses très inattendues, Lady
Gaga.
Non, mais
parce que Toni Morrison, elle disait, elle a cette capacité incroyable de se réinventer tout le temps. Et elle me dit, parce que je lui dis, mais est-ce que je me souviens quand j'ai lu ce manuscrit, j'ai dit, est-ce que vous avez regardé beaucoup de séries, est-ce que vous avez regardé beaucoup de jeunes filles danser à la télévision, etc. Elle m'a dit non, mais c'est. Et elle voulait raconter toutes ces histoires. Et après. Elle les habillait, elle les encadrait, voilà.
Et l'idée de se réinventer, alors elle le fait vraiment de façon très concrète dans un livre qui est Jazz, où elle utilise la voix de la narratrice, en fait, comme une partition de jazz où il faut laisser la place à l'improvisation et où ce qu'on décide, à un moment donné, il faut le lâcher pour pouvoir se réinventer. Ça, c'est une chose étonnante qu'elle fait dans ce deuxième volet de la trilogie.
Parce que, si j'ai compris son travail, je pense que l'essentiel, c'était de dire « deviens la personne que tu es », avant toute chose. Après, ça ira bien. Une fois que tu as compris qui tu es, que tu as compris d'où tu viens, n'aie peur de rien. Donc évidemment, elle a raconté dans plein de livres des personnages qui s'inventent. Qui résistent et qui sont conscients.
Qui se réinventent aussi.
Qui se réinventent au cours. Voilà, bien sûr. Mais ça a toujours été son exigence. C'est être qui tu dois être.
Alors, on va écouter quelqu'un qui a été qui elle devait être. Quelqu'un que Toni Morrison aimait beaucoup. C'est Nina Simone.
She was very intimidating.
Elle était extrêmement intimidante.
I adored her music.
J'étais une passionnée de sa musique. Et toujours. Je le reste. Pour moi, elle m'a sauvé ma vie. Vraiment, elle a sauvé ma vie. Mais pas simplement pour moi, mais également pour d'autres jeunes noirs américains. Elle nous a sauvé la vie. Et personnellement, elle était quelqu'un avec beaucoup de problèmes, sans aucune peur. Elle en demandait beaucoup. Elle était déchirée. Elle était totalement directe. Elle ne prenait aucun raccourci. Et extrêmement rapide dans la vie, vous savez. Elle savait très bien ce qu'elle voulait et elle le faisait tout de suite. Elle savait si elle allait être tendre avec vous, si elle allait être vulgaire ou violente.
She might do anything.
Elle pouvait faire n'importe quoi.
Nevertheless,
néanmoins,
I think of her music always.
Je repense à sa musique et j'y pense encore.
As a part of the health of one's spirit.
Et pour moi, vraiment, je crois que ça fait partie de la santé de votre âme, ce type de musique.
Love me and leave me and let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else.
dump me or leave me and let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love. My love is your love. And there's no love for nobody else.
France Inter. Le Mac de l'été. Anna Sigalevitch.
C'était Toni Morrison qui parlait de Nina Simone, et puis Nina Simone qu'on a entendue. Alors voilà, on sait que Toni Morrison adorait Nina Simone. Nina Simone qui aussi a eu un destin complexe, hein, qui rêvait de devenir pianiste classique. C'est pour ça que j'ai choisi ce morceau, parce qu'on entend au milieu, hein, Dominique Bourgois, cette fugue incroyable.
Ça lui a été refusé puisqu'elle n'a pas été acceptée à la Juilliard School.
Absolument. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que Nina Simone, elle était dans la même logique en fait que Toni Morrison sur le fait de refuser qu'on la cantonne ou à ses contours ethno-sociaux. Hein. C'est-à-dire, il y a un exemple qui est assez frappant. Elle devait chanter une chanson de, enfin, elle a chanté une chanson de Gershwin, extraite de l'opéra Porgy and Bess. Le personnage de Bess dans l'opéra dit I loves, hein, parce que là, c'est une jeune femme noire. Elle fait une faute grammaticale. Or, Nina Simone a dit non, moi je dis pas I loves, je dis I love. Je fais pas de faute. Et c'est, enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de commun dans la personnalité de Nina Simone et celle de Toni Morrison.
Sauf que la personnalité de Nina Simone était vraiment compliqué et complexe et totalement autodestructive, ce que n'a pas été jamais Toni Morrison.
Mais dans le refus de se cantonner à ce que la société
décidait.
Oui,
mais elle s'est cantonnée à ce refus, alors que Madame Morrison l'a sublimé.
L'a sublimé, l'a transcendé.
L'a sublimé, alors qu'elle aurait pu le sublimer, elle, avec sa musique qui est magnifique et sa voix formidable. Mais elle en a été empêchée.
En 1993, Toni Morrison a été consacrée par le prix Nobel de littérature. On écoute, si vous le voulez bien, Dominique Bourgois, un extrait de son discours.
The vitality of language lies in its ability to line the actual.
La vitalité de la langue dépend de sa capacité à peindre les vies réelles, imaginées et possibles de ses locuteurs, lecteurs et écrivains.
Although its poise is sometimes in displacing experience, it's not a substitute for it.
Bien qu'elle ait une certaine aisance à remplacer l'expérience, elle ne peut se substituer à elle.
It arcs.
Elle cherche à atteindre le lieu où pourrait se trouver le sens.
Language can never live up to life once and for all.
La langue ne peut être à hauteur de la vie.
Nor should it.
Elle ne doit pas l'être.
Language can never.
La langue ne pourra jamais cerner avec précision l'esclavage, le génocide et la guerre.
War. Nor should it arrogance to be able to do so.
Elle ne devrait pas prétendre à l'arrogance de s'y essayer. Ce qui fait sa force, son bonheur, c'est de chercher à exprimer l'inexprimable.
Word work is sublime.
Le travail des mots est sublime.
Because it's generative.
Parce qu'il est générateur. Il produit le sens qui garantit notre différence humaine, la façon dont l'humain se distingue de toutes les autres créatures.
We die.
Nous mourons.
That may be the meaning of life.
C'est peut-être le sens de la vie.
But we do language.
Mais nous créons la langue.
That may be.
Et voilà peut-être la mesure de nos vies.
Toni Morrison, traduite par Marion Philippe. C'était donc un extrait de son discours, au moment où elle a reçu le prix Nobel de littérature en 1993. Dominique Bourgois, je vois prendre des notes. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez envie de nous lire quelque chose?
Oui.
Oui.
J'ai envie de vous lire une phrase.
Allez-y, je vous en prie.
Si vous voulez bien.
Oui, je veux bien.
Qui va très bien avec le prix Nobel. Que l'on ait conscience de la race ou non, il existe en littérature tellement d'occasions de la révéler. Mais écrire de la littérature non coloriste sur les Noirs est une tâche que j'ai trouvée à la fois libératrice et difficile.
Toni Morrison, elle est restée jusqu'à la fin de sa vie debout, en lutte, révoltée.
Faut dire qu'elle a beaucoup aidé pour sa révolte par le président Trump,
oui,
elle était qui lui a gâché les derniers mois de sa vie. C'était insupportable. Et je pense que c'était pas seulement insupportable parce qu'il succédait à deux mandats du président Obama, c'était insupportable parce qu'il représente. Et c'était pas une comparaison, c'est mieux avant, c'est mieux après. Ça lui était sincèrement
insupportable. Oui. Elle avait soutenu Obama quand même pour ces deux campagnes.
Toujours dans les mots, dans les textes, mais elle faisait pas campagne, elle signait pas de manifeste, elle a jamais voulu faire ça. Elle l'a fait de manière beaucoup plus subtile et en fait efficace. Mais elle nous en parlait tout le temps et c'était pas une posture, ça lui était insupportable.
Elle souffrait
de
vraiment,
vivre dans cette Amérique qui était devenue l'Amérique de Trump.
Alors que Obama la considérait comme un trésor national.
Il l'a dit hier soir, et en plus, on peut comprendre qu'il l'ait dit. Voilà, c'était. Mais quand elle a reçu la médaille au Freedom et on lui a dit tout, alors comment c'était ? Est-ce que vous êtes
la plus haute distinction aux États-Unis,
la médaille
de la liberté. Ouais.
Elle a dit non, j'y suis allée juste pour rencontrer Bob Dylan.
Là encore l'élégance de la pirouette.
Absolument.
Dominique Bourgois, on va sortir pour quelques minutes de l'hommage que nous rendons avec vous à Toni Morrison pour nous pencher sur l'actualité culturelle des jours à venir, des rendez-vous repérés par l'équipe du Mac de l'été. Il ne vous reste plus que quelques jours, jusqu'à dimanche exactement, pour enflammer le dance floor de l'exposition Electro à la Philharmonie de Paris, pour une plongée à l'intérieur d'une musique souvent dénigrée, de Kraftwerk à Daft Punk, en passant par Laurent Garnier. On découvre les innovations, les mythologies, ainsi que les liens avec les arts plastiques de l'électro. Le défi, démontrer que les musiques électroniques ont une histoire et qu'elles s'imposent comme une tendance majeure de notre culture contemporaine. On reste scotché devant l'univers culturel nocturne et envoûtant de l'exposition à base de lampes ultraviolettes. J'ai l'impression que c'est un léopard qui rugit. Mais oui, parce que c'est ce soir que s'ouvre la 72e édition du Festival international du film de Locarno en Suisse italienne. Il est l'un des principaux festivals de cinéma d'auteur international. Et c'est d'ailleurs ce que prône la nouvelle directrice artistique, Lily Instin, qui affirme sa volonté de faire de la Piazza Grande une vitrine du cinéma d'auteur. Le Mac de l'été sera en direct du festival pour deux émissions, lundi 12 et mardi 13 août, avec au programme du cinéma français Merveille à Montfermeil de Jeanne Balibar, Les Enfants d'Isadora de Damien Manivelle avec Agathe Bonitzer, mais aussi du cinéma coréen avec le réalisateur Bong Joon-ho et son acteur fétiche Song Kang-ho qui va recevoir l'Excellence Award de Locarno 2019 et on vous réserve bien d'autres surprises encore. Le festival de Locarno, c'est jusqu'au 17 août et on a hâte d'y être. Le Festival international de musique de Dinard ouvre ses portes ce week-end. On écoute sa directrice artistique, Claire-Marie Leguet.
C'est une belle aventure, un beau partage avec le public que nous préparons pour le public. La ville de Dinard, cette belle ville, va résonner avec la musique pendant cette grande semaine. Et il y aura divers concerts, divers répertoires, concerts symphoniques avec l'Orchestre de Bretagne, concerts de musique de chambre, concerts bien sûr de récital de piano.
Oui, parce que le piano est le fil rouge, hein, c'est ça, du festival. Alors, vous êtes vous-même pianiste. Comment est-ce que vous construisez votre programmation et le choix de vos artistes?
C'est un peu comme réunir des personnes que l'on aime et qu'on a envie de se faire rencontrer et puis de faire rencontrer au public. Ce sera, un équilibre fait de grands noms des scènes internationales et puis peut-être aussi de jeunes artistes à découvrir. Il y a une ouverture cette année au répertoire de jazz avec un croisement classique et jazz avec Vincent Perani et François Salk. Mm-hmm. Et puis, il y a cette idée que chaque concert soit unique, c'est-à-dire que le festival se déroule du 10 au 18 août pendant une grosse semaine et chaque soir aura une identité vraiment différente. Chaque concert aura une particularité de répertoire différent, d'ambiance différente, de lieux différents, puisque le festival aura lieu à la fois dans le parc du Port-Breton qui donne sur la mer, à Dinard, à l'Auditorium ou alors à l'église Notre-Dame, les lieux correspondant au répertoire et aux œuvres
qui sont données. Alors, il y a un concert qui est un concert pour les familles, un concert où sera programmé Les Malheurs de Sophie, donc de la comtesse de Ségur, avec Agnès Jaoui, vous au piano, dans des œuvres de Schumann.
Oui, parce que Schumann, ce compositeur, vous savez, qui pouvait passer de la joie au désespoir très vite, correspond exactement au caractère de la petite Sophie, qui, au gré de ses bêtises, passe d'une très très grande joie, parfois très imaginative, et au plus gros chagrin. Et la musique de Schumann, qui emprunte énormément de poésie et aussi de tendresse, correspond très très bien à cette atmosphère. Et puis... Et Agnès Jaoui, qui est si musicienne, glisse sa voix, glisse les expressions de sa voix dans ses mots et dans cette musique.
Alors, il y a aussi un jeune artiste dont j'aimerais bien qu'on parle, c'est Jean-Paul Gasparian. On a beaucoup parlé de lui ces derniers temps, pour son premier disque consacré au compositeur russe, pour son deuxième disque qui est paru cette année, consacré à Chopin. Vous l'avez programmé et il fut votre élève.
Oui, alors j'ai eu cette chance de le connaître très tôt, puisqu'il avait une douzaine d'années. Et déjà très tôt, c'était une personnalité exceptionnelle qui n'a fait que se développer, s'embellir, s'approfondir. Et c'est un immense artiste qui sera là aux côtés d'Eva Zavaro, très grande violoniste, jeune violoniste. Et je pense que c'est une chance aussi pour le public de pouvoir découvrir des talents qu'on connaît pas forcément encore tellement, mais qui seront les grands musiciens de demain. Jean-Paul Gasparian a un jeu très, à la fois très virtuose, mais aussi très profond, très intérieur, très réfléchi. C'est quelqu'un d'une très grande intelligence, d'une très grande culture.
Et d'une grande maturité aussi pour son jeune âge.
Oui, tout à fait, d'une grande maturité.
Merci beaucoup Claire-Marie Leguet. Alors le festival commence ce week-end, le 10 jusqu'au 18, et c'est à Dinard, et donc ce sera une programmation extrêmement éclectique que vous nous proposez. On vous souhaite un très bon festival.
Le Mac de l'été sur France Inter.
Dominique Bourgois, avant de nous dire au revoir, pour les auditeurs qui ne connaissent pas l'œuvre de Toni Morrison, par quoi vous conseillez de commencer?
Je vais vous surprendre, mais ce ne sera pas Beloved. Mm-hmm. Mais il y a un roman que j'aime énormément, parce qu'il y a un personnage qui me touche beaucoup, dont j'ai parlé avec Madame Morrison la dernière fois que je l'ai vu, il n'y a pas très longtemps. C'est Love, où il y a un grand-père qui parle à son petit-fils et qui lui donne un conseil dans la vie. Il lui dit « Love should be good food, good talk, good sex ». Je trouve ça magnifique.
On va terminer notre hommage à l'écrivaine Toni Morrison, morte donc dans la nuit de lundi à mardi à 88 ans, par sa voix. Un extrait de son dernier roman, Délivrance, paru en 2015 aux éditions Bourgois.
Simply dumbstruck by her beauty, Booker stared open-mouthed at a young blue-black woman standing at the curb laughing, her hair like a million black butterflies asleep on her head. He put the trumpet to his lips. What emerged was music he had never played before. Low, muted notes held long, too long, as the strains floated through drops of rain.
Tout simplement stupéfait par sa beauté, Booker contempla, bouche bée, une jeune femme à la peau noire bleutée qui riait debout sur le trottoir. Ses cheveux étaient semblables à un million de papillons noirs endormis sur sa tête. Il porta la trompette à ses lèvres. Ce qui en sortit fut une musique qu'il n'avait jamais jouée auparavant. Des notes basses et sourdes, longtemps, trop longtemps retenues, tandis que les accords flottaient parmi les gouttes de pluie. Merci beaucoup, Dominique Bourgois, d'être venu jusqu'à nous pour rendre hommage à votre amie, l'immense auteure Toni Morrison, dont vous êtes l'éditrice. Un grand merci aussi à l'équipe de l'été, du Mac de l'été, d'avoir préparé en urgence, avec tant d'engagement, cette émission. Jean Permefeuille, voilà. Élodie Royer, Marion Philippe et Maëlane Loaec à la préparation. Clément Baudet à la réalisation, à la programmation musicale Elsa Béranger et à la prise de son aujourd'hui Maxime Ingrand. Après le journal, rendez-vous avec Yves Decamp pour le téléphone sonne. Bonne soirée sur France Inter.